Donc, Morgane Gauquelin et Élise Mérigeau ont fondé à la Croisée des Orients et n'en sont pas à leur première expérience à l'international. Elles étaient cet été au Xinjiang à la découverte de la culture ouïghour. Alors, Morgane Gauquelin, vous êtes dans le studio. Vous êtes étudiante ?
Oui, je suis encore étudiante.
Oui, c'était le encore, puisqu'on vous a reçu déjà au printemps.
Oui, je reste étudiante, je crois que ça ne se terminera pas tout de suite encore.
Donc vous faites quoi ?
Là, je suis en master de recherche, en master 2 de recherche. Je travaille sur les Kurdes et sur la question kurde. Et je pense que je vais écrire une thèse aussi sur ce sujet, a priori. J'irai
bon,
en doctorat.
On est loin de la Chine, à vrai dire.
Pas si loin que ça, finalement.
On va le voir. Sur quelle base avez-vous créé à la Croisée des Orients ? Quel est l'objectif de cette association ?
Alors, l'objectif, c'était clairement de Élise et moi, on a toujours été sensibles aux questions des minorités nationales, c'est-à-dire comment est-ce que certains peuples ont du mal à trouver leur compte dans la conception de l'État-nation et des frontières tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que moi, à travers les Kurdes, et Élise, à travers les minorités chinoises, on s'est toujours intéressé à ces questions de minorités qui ont du mal à faire connaître leur culture et à trouver leur identité. Donc on est parti là-dessus. Le but, c'était vraiment de sensibiliser un maximum de gens à ces questions de découverte de minorités nationales en Orient.
Donc c'est la base de tous vos projets internationaux ?
Oui.
Les minorités ?
Oui.
La route de la soie, ça vous fait rêver ?
Oui. Je crois que ça fait rêver un peu tout le monde. Après, il faut un peu remettre en question, cette idée. Il n'y a pas deux routes, il n'y a pas une route de la soie, puisque c'est à travers le temps, ça couvre une période énorme, qu'il y avait plein de possibilités. On peut à la fois passer par la Chine, l'Iran, la Jordanie, traverser la Méditerranée. On peut aussi passer par la Turquie.
C'est comme le chemin de Compostelle, il y en a plusieurs, quoi.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et puis en plus, c'est pas qu'on appelle aujourd'hui ça la route de la soie, mais ça a été créé après coup. Il y a aussi la route des épices, il y a aussi la route du jade, il y a aussi la route du thé. Donc c'est un mythe un tout petit peu. C'est pas assez complet, c'est pas une explication suffisante. Mais c'est vrai que ça fait rêver quand on voit Samarcande, l'Ouzbékistan.
Mais ce qui fait peut-être rêver aussi, c'est que c'est dans ces endroits que se sont rencontrées des cultures si différentes. C'est ça, je pense.
Ah oui, c'est
nous
un croisement, c'est un carrefour. Et ça, on le retrouve très bien dans le Xinjiang. C'est-à-dire que c'était un mélange où on a tendance aujourd'hui, avec la mondialisation, à dire que c'est quelque chose de nouveau, toutes ces rencontres, tous ces échanges. Mais c'est très, très vieux. Enfin,
Mais dans des lieux précis.
Dans des lieux précis, oui. Dans des lieux précis, sur les zones du commerce, sur les zones d'échange. Oui, mais par exemple, c'est vrai que là, le Xinjiang dont on va parler, donc où on est allé cet été, on voit bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a à la fois des Kazakhs, des Ouzbeks, des Mongols, des Ouïghours, des Chinois. Et c'est une région dans laquelle ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que les mélanges linguistiques, culturels, identitaires, commerciaux, que les échanges se font à très grande échelle quand même.
Et tout se passe bien ?
Oui, je pense. J'étais pas là.
Alors, on pourrait peut-être faire un peu de géographie, parce qu'on parle du Xinjiang. C'est où exactement ?
Alors, le Xinjiang, c'est l'extrême nord-ouest de la Chine. Donc, avec la Russie en haut, et donc avec le Kazakhstan à côté, et avec en bas la frontière afghano-pakistanaise.
Oui, des endroits calmes, on va dire. Le désert de Gobi, il est pas loin ?
Le désert de Gobi, il est pas loin. Dans le Xinjiang, c'est en fait le désert principal, c'est le désert du Taklamakan. Donc le Xinjiang, c'est une région énorme, puisqu'on fait de la géographie, allons-y. C'est une région qui correspond à peu près à 3 fois le territoire français au niveau superficie. C'est une des très grandes, enfin c'est la plus grande province de Chine. Donc c'est une région qui va être très montagneuse au nord, qui va être avec certaines grandes villes, on va pouvoir trouver de très très différents climats et zones géographiques. Alors avec au milieu dans le sud le désert du Taklamakan, qui littéralement si on veut
le plus redoutable du monde, dit-on.
Si on essaie de le transcrire, Taklamakan, ça veut dire entre et
il ne ressort jamais.
Ouais, c'est ça. Mais c'est dû aux rivières qui rentrent et qui ressortent pas, du coup. Mais du coup, on l'a un peu mythifié. Mais c'est vrai qu'il y avait, notamment dans les échanges commerciaux, etc., c'était un désert...
Il n'est pas très accueillant.
Craint, ouais, très craint.
À vrai dire. Alors, qui sont les Ouïghours ?
Alors, les Ouïghours, c'est un très vieux peuple qui, aujourd'hui, est turcophone et musulman. Ils sont à peu près 10 millions à vivre sur ce territoire-là, donc le Xinjiang. Ils se caractérisent par leur langue, leur alphabet aussi, et puis leur religion et leur culture particulière. C'est un peuple d'Asie centrale.
Alors justement, la culture, c'est quoi les caractéristiques de la culture ouïghour ?
Pouf, il y en a plein. Bon, moi, je dirais que ce qui m'a frappé du fait d'y aller, quand j'y suis allée, c'est vraiment la religion, c'est-à-dire la religion dans la vie quotidienne, c'est quelque chose qui vraiment rythme les journées, du matin, de la première prière jusqu'au soir, on a eu la chance d'aller dans les campagnes, etc., à assister à des fêtes de circoncision, à des mariages, à des fêtes populaires, et on voit bien le poids de la religion musulmane dans la vie de tous les jours, même dans la musique. Bon, après, c'est vrai que là, vous avez entendu un extrait de musique ouïghour, donc on voit bien aussi que ça ressemble pas à la musique chinoise.
Ah, pas du tout.
Les percussions iraniennes, on retrouve... c'est une musique d'Asie centrale, qui est assez proche, sur certains aspects, des musiques turques. Donc, on est dans une culture qui est tout à fait distincte de la culture chinoise.
C'est ça, les Chinois, ils ne doivent pas s'y retrouver.
Ils s'y retrouvent très bien. Moi, j'ai eu des expériences dans les bazars ou dans des petits magasins à Kashgar, etc., où les Chinois avaient envie de consommer les produits ouïghours comme nous.
Oui, évidemment. L'itinéraire géographique, à peu près.
De ce que vous avez fait. Alors, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais en fait,
pour des raisons d'organisation.
Oui, en fait, on a fait très simple, c'est qu'on a suivi nos guides. On a eu la chance de rencontrer des gens super sympas qui nous ont emmenés dans leur famille, qui nous ont emmenés dans.
Mais c'était au hasard de la rencontre.
Non, c'était pas au hasard, mais disons qu'on s'est éloigné du chemin auquel on avait pensé au début. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas descendu la route de la soie. Il y a la route de la soie qui va de Kashgar jusqu'à Rotan, vers Sienne, qui est la route classique. On devait le faire et finalement on l'a pas fait parce qu'on a privilégié d'aller au nord dans des familles où on a privilégié d'aller notamment à Makit, c'est-à-dire dans la région des Dolanes.
C'est ça que personne connaît en fait.
les spécialistes connaîtront les Dolanes, si, parce qu'ils ont une musique musique et une culture extrêmement particulière. Il nous arrive des choses assez drôles.
Certes. Et cette musique, est-ce qu'elle a de particulier ?
La musique des Dolanes ? Ou la musique en général, moi je trouve qu'on sent le soufisme. Il y a eu une influence soufie chez les Ouïghours jusqu'à la fin du siècle dernier, et il y a encore des confréries soufies chez les Ouïghours, et je trouve qu'on sent cette espèce de
mysticisme malgré
tout.
Oui,
c'est presque ça.
C'est presque ça. Alors, deux femmes en Chine dans une région musulmane, c'était pas trop difficile?
Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est vrai que j'ai habité en Turquie, j'ai voyagé en Syrie, en Jordanie.
Seule, toujours.
Oui, seule ou avec d'autres gens, avec d'autres filles, avec d'autres garçons. Enfin, je me voile à l'occasion. J'ai pas tellement de problèmes avec ça.
Pas besoin, oui, chez les Ouïghours.
Oh non, non, non. Non. Mais par contre, on a rencontré d'autres difficultés, on va dire. Donc, on n'a pas eu de soucis pour rencontrer. On a eu des guides hommes, femmes. Mmh. Aucun problème. Ce qui était important, c'était vraiment d'avoir des gens ouïghours avec nous. Comme ça, on a eu accès à des choses auxquelles on n'aurait jamais eu accès sans. Par contre, ce qui m'a un peu surprise, c'est que les femmes ne vont pas dans les mosquées chez les Ouïghours. Donc moi, c'est la première fois que je pouvais pas rentrer dans les mosquées. On n'a pas du tout de clichés, on n'a pas du tout à assister à des prières, etc. Parce que les femmes, globalement, ne vont pas dans les mosquées ouïghours.
Et il n'y a pas de mosquée pour les femmes, par hasard ?
Non.
Ah bon, elles y vont pas du tout. Elles sont complètement écartées du monde religieux.
Non, pas du tout. Je pense qu'elles prient chez elles. Je pense qu'elles ont des choses à part, qu'elles font des choses à part. Mais globalement, elles vont pas à la mosquée, non.
Quelles sont vos plus belles rencontres ?
Fouf, plein.
Bon, donc, alors, quelques minutes, juste.
C'est vrai que ça a été vraiment une expérience humaine au-delà de ce que j'aurais pu penser avant de partir. C'est pas peu dire. Et je vais raconter des anecdotes à ce moment-là. Par exemple, dans les Dolanes, on a assisté à une meshrep, qui est une fête populaire du village, en fait. Donc, c'était près de Makit, donc c'était au bord du désert du Taklamakan. Et donc, c'était assez drôle parce que donc, il y avait plein de musiciens, beaucoup de percussionnistes avec ces voix un peu mystiques comme on a pu en entendre un peu tout à l'heure. Et donc, avec des gens du village qui viennent danser, des danses très compliquées et tout ça, donc qui nous invitent à danser. Donc, c'est vrai qu'on était un peu gênés, on n'osait pas trop danser.
Oui, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'étrangers qui vont les voir.
Non, et puis en plus, ils dansent c'est vraiment très technique leur danse. Alors du coup, on était un peu ennuyés, tout ça. Et puis après, il y a des sketchs. Enfin, c'est vraiment une fête populaire. J'avais l'impression vraiment d'être anthropologue en assistant à cette meshrep. Et puis après, la dernière danse, c'est ce qui s'appelle la danse du fouet. Alors, il y a deux personnes qui vont sur les tapis au milieu du village, qui dansent. Et donc, le principe, c'est chacun tourne sur lui-même. Et il y en a un qui a le fouet, qui fouette les fesses de l'autre. Et l'autre qui prend les coups.
Oui, c'est donc une ça, manière c'était, originale de faire le derviche. Oui,
oui c'est voilà. Mais c'est vrai que du coup, bon, bah, évidemment, comme on était les deux invités, comme ils le disent eux-mêmes, pour qu'on se souvienne d'eux, pour que cette rencontre soit marquée, bah, on a pris des sacrés coups de fouet quand même. Et c'est vrai qu'au début, moi j'ai un peu crié, on avait quand même quelques petites marques. Mais c'est vrai que ça reste un souvenir où on a vraiment partagé un moment où on a fait rigoler les autres, où nous on a rigolé de ce qui se passait.
Donc il y a eu un vrai partage.
Ouais, ça reste un moment d'échange très sympa, mais il y en a eu d'autres.
À propos d'échange, vous parlez quelle langue avec eux ?
Alors moi je parlais un turc arrangé.
À la mode ouïghour.
Ouais, voilà, quelque chose un peu comme ça. Je parlais turc, donc ce qui était drôle c'est que quand je disais bon voilà je parle turc etc, les gens nous disaient ben ah bon ben on est frères en fait, bon ben, ouais. Oui d'accord on est frères et donc on comprenait pas tout ce que je disais, moi je comprenais pas du tout ce qu'ils disaient, mais on arrivait à se comprendre,
mais ça allait quoi.
Ouais.
Bon, ça veut dire que ceux qui parlent pas turc auraient quand même des problèmes à faire le même voyage.
Dans les villages, clairement, c'est impossible. Mmh. Dans les villages, dans les montagnes, je pense que c'est pas possible. Après, à Urumqi, Kashgar, le chinois suffit amplement. La personne avec qui je suis partie parle très bien chinois. Moi, ça, je pense que ça suffit amplement pour les grandes villes, quoi, pour les zones un petit peu balisées. Après, le Xinjiang, c'est aussi énormément de zones qui ne sont pas balisées et où les guides sont très. Enfin, le routard, le Lonely Planet, etc. Il y a quand même de sacrées lacunes. On s'est retrouvés dans des situations un peu.
Je dirais partout, là où c'est un petit peu compliqué, les guides du routard, j'imagine que Gilles Perrin, il a d'autres adresses que celles du routard.
Oui, enfin, moi je fais comme Morgane, il y a Routard et Lonely Planet, et puis sur place, j'essaye toujours, on cherche quelqu'un qui est anglophone. Et il y a toujours quelqu'un, maintenant en Chine, il y a beaucoup d'endroits, des jeunes en général, qui vont à l'université ou à l'école et qui parlent anglais. Et puis on les embarque, et puis voilà.
Ouais.
Ils sont ravis, ils voyagent, ils sont contents, ça leur donne des idées pour aller ailleurs. On leur dit, bon, ben voilà, on voudrait à tel endroit. Ah oui, mais bon, oui, ben viens, on t'emmène, on va te payer l'hôtel, on va te donner à manger. Et puis bon. Ils sont contents parce qu'ils ne sortiront pas de la petite ville.
C'est l'occasion que nous leur donnons, en fait.
Oui, ça se passe très bien à chaque fois.
Parce que les Chinois sont extrêmement voyageurs dans leur pays. C'est-à-dire que les premiers touristes en Chine sont
les Chinois
eux-mêmes.
Oui,
ils adorent leur pays et ils sont très curieux d'y découvrir leur richesse. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais.
Que pensent les jeunes Ouïghours de la culture traditionnelle aujourd'hui ?
Alors il y a de tout. Hein. C'est varié. Nous, on a rencontré vraiment des gens assez fiers de leur culture, de leur danse, de leur musique. C'est vrai que c'est ce qui nous a donné le goût de l'envie de rapporter ces témoignages. Donc, globalement, ils en sont assez fiers. Mais après, il y a aussi une forte acculturation à la culture chinoise. Donc, on va retrouver aussi des mélanges à ce niveau-là, identitaire, culturel. Donc, on peut trouver un petit peu de tout. C'est-à-dire très fiers de la culture ouïghour et qui se sentent très ouïghours dans leur identité. Mais aussi des moments où ils vont s'acclimater à des goûts, des consommations culturelles chinoises ou alimentaires. Et voilà. Donc, on trouve un peu différentes choses. Avec quand même une très grande fierté de la culture traditionnelle, de la musique traditionnelle qui vient d'être déclarée patrimoine mondial de l'humanité.
Les mougams.
Les mougams.
Est-ce que vous pensez qu'ils sont voués à disparaître ?
Non.
Parce qu'en général, quand un truc est classé, c'est que...
J'y avais pas pensé. Voilà. Non, parce que
patrimoine mondial de l'UNESCO,
de l'humanité. Oui, à l'UNESCO, ça vient. Ça fait pas très longtemps. Il me semble que c'était. Ça fait
bon,
pas
l'année
très
dernière,
longtemps.
Je
oui, je crois. Et donc les mougams, c'est quelque chose qui vient des morceaux qui viennent de très loin, qui sont très compliqués à analyser au niveau musical, qui durent une heure et demie chacun. Et les 12 ont été reconnus donc par l'UNESCO. C'est des musiciens qu'on trouve encore à Urumqi. C'est un type de musique qui est encore enseigné au conservatoire.
Bon, donc
c'est
pas
une grande
en voie de
fierté. Disparition. Moi, j'ai pas du tout trouvé que. Non, les moukamistes sont encore très fiers de ce qu'ils font. Ils voyagent à travers le monde. En plus, il y a les moukams qui ont été reconnus, puis il y en a d'autres en fonction des régions du Xinjiang. Ils voyagent dans le monde, ils jouent leur musique.
Donc, ils sont heureux.
Les Chinois les reconnaissent et les invitent dans les concerts, etc. Je crois que c'est pas voué à disparaître, non.
Bon, bah, tant mieux. On apprend le ouïghour à l'école ? Parce que c'est l'école chinoise, faut quand même pas oublier ça.
Ça, c'est complètement fou, parce que c'est des gens qui apprennent l'alphabet chinois, qui parlent chinois, et qui apprennent, dans certaines écoles, le ouïghour avec un alphabet arabo-persan. Et évidemment...
Et en plus, ils veulent apprendre l'anglais.
Évidemment,
ça fait trop...
dans la vie de tous les jours, on est obligé de lire au moins l'alphabet latin. Donc ça veut dire que c'est des gens qui maîtrisent parfaitement trois alphabets, et en plus, pas les moindres, quoi.
et en sachant que s'ils veulent avoir de bons postes en Chine et même progresser en restant même au Xinjiang, bah, il faut qu'ils parlent excellemment chinois et qu'ils aillent dans une université chinoise.
Ah ouais, voilà. Ils parlent, non mais ils parlent très, dans les villes. Après, c'est vrai que dans les campagnes, ils n'ont pas cette opportunité-là. Nous, on est allés dans des campagnes où personne ne parlait chinois, ça c'est sûr.
Ah, mais ça c'est intéressant, il y en a qui ne parlent pas chinois dans les campagnes.
Il y en a qui ne parlent pas chinois, où Élise était tout embêtée de ne pas pouvoir discuter avec les gens, parce que quand elle parlait chinois, les gens lui faisaient « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?»
Donc, ouais, bah, ils faisaient exprès.
Non, je vous assure qu'ils ne parlaient pas chinois. Mais après, dans les grandes villes, ils parlent un chinois parfait, ils écrivent parfaitement tout. Et puis ils connaissent leurs noms. Leurs noms sont les noms ouïghours classiques, donc qui sont turcophones, hein, sont écrits parfois en, enfin sont traduits, si vous voulez, en chinois, quoi.
Oui, donc il y a pas de côté. Je défends ma langue et je lutte pour la défendre.
Si, bien sûr, mais ça n'empêche pas que le chinois est incontournable pour eux. Ça c'est sûr, quoi. Mais ils défendent leur langue aussi, on va dire à titre culturel, quoi, à titre identitaire et culturel.
Oui, évidemment. Mm. Parce que c'est quand même le fondement de leur identité, c'est la langue.
Et la religion, oui.
La religion.
Et la religion. La langue et la religion. Ouais.
Les instruments de musique ouïghour, ouais. Un petit panorama rapide.
Oula. Alors, donc les percussions, c'est le daf qui est... Daf, je crois, c'est iranien, c'est une percussion iranienne qu'on retrouve tout le temps, que vous avez entendu. Après, je connais les noms en turc, je suis pas sûre que ce soit la même chose en ouïghour. Il y a les doutar, il y a les...
Oui, c'est-à-dire le dotar, c'est deux cordes, c'est ça?
Ouais. Hein.
Ça, c'est quelque comme chose... un luth à manches longues.
Ouais, c'est ça, qu'on retrouve pas mal. Après, alors, je connais le mot en iranien et en turc, je sais pas, en ouïghour.
Ben, dites-le,
c'est kemanche en turc.
Ouais, kemanche, ouais.
C'est une petite vielle.
Archer.
Ouais, archer qui se joue en tournant le manche, pas l'archer justement. Mm-hmm. Donc ça, les voix, c'est très impressionnant les voix, parce que pour nous, les Européens, on comprend pas très bien comment fonctionnent les voix d'Asie centrale et orientale, c'est-à-dire que c'est des voix qui sont pas du tout ventrales, où le coffre n'a pas la même importance que chez nous. Ce qui va importer, c'est la justesse et puis les trémolos et les c'est plutôt
les ornementations.
Oui,
ouais, voilà. Ouais. Ouais, beaucoup plus. Ouais.
Et c'est très différent pour ça.
Alors, vous proposez, il me semble, une exposition photo en ce moment à Lille.
Oui.
Quel est le retour que vous avez du public qui vient voir vos photos?
Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai été très surprise parce qu'il faut dire honnêtement que quand on parle de Ouïghours...
On dit pardon, c'est quoi?
Oui,
déjà.
En plus, c'est une expo qui s'appelle Les Ouïghours du Xinjiang. Donc il faut dire que c'est pas... Bon, on a sorti très parce que c'était pas évident. Et moi, j'ai été très surprise de voir que les gens vraiment ont été très curieux, ont été très très intéressés et nous ont posé pas mal de questions, on a eu plein de retours. Moi j'avais un peu peur que les gens s'en moquent, quoi. Et pas du tout, ça a vraiment intéressé des gens très très différents. On a fait de la sensibilisation auprès des enfants, auprès de plein de gens différents, et on a eu plein de retours sur les questions religieuses, sur les questions identitaires. En plus, on a dans l'expo, il y a des chapeaux, il y a des tissus, il y a de la musique, on a des films. Donc on a plein de moyens, plein de supports pour essayer de montrer qui ils sont. Et donc du coup, on a eu plein d'engouement. Vraiment, moi, je garde quelque chose de très positif de ce qui s'est passé à Lille. Et puis évidemment, on va essayer de faire venir à Lille des musiciennes, des moukamistes, justement, les musiciennes traditionnelles ouïghours.
Bon, alors là, vous nous le dites pour qu'on puisse l'annoncer, évidemment.
Oui, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. On va y penser. C'est-à-dire qu'en fait, elles viennent déjà à la Maison de la Musique à Nanterre. Et elles vont faire également un concert à Nice. Donc peut-être voir pour également les faire venir à Lille.
Bon, bah, voilà, l'appel est lancé.
Si quelqu'un
veut inviter
trois moukamistes traditionnels ouïghours.
Et puis quand même classé patrimoine mondial.
Hein, oui, tout à fait.
Enfin, pas les moukamistes, mais les moukams.
Et voilà, et après on va faire de la sensibilisation aussi dans les collèges sur ces thématiques-là.
Eh bien, Morgane Gauquelin, merci. Vous nous avez donné envie d'aller l'été prochain au Xinjiang.
Merci.
Quant à Gilles Perrin, il connaît déjà.
Je retournerai très volontiers.
Moi aussi.
Bon, bah, on se retrouve l'année prochaine alors.
Voilà.
Moi j'irai bien aussi.